midi.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos réactions sur l'accord signé vendredi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, un accord de paix censé mettre fin à 3 décennies de crise et d'insécurité dans l'est de la RDC. Dans les grandes lignes, le texte prévoit notamment le départ des forces rwandaises du territoire congolais et la neutralisation du groupe armé FDLR, considéré par le Rwanda comme une menace pour sa sécurité. Il est prévu un mécanisme conjoint RDC-Rwanda pour vérifier que les engagements sont bien respectés sur le terrain. Le texte souligne également la possibilité d'intégrer des combattants dans les rangs des forces armées et de la police nationale congolaise. Et puis, autre aspect important de cet accord, l'engagement de renforcer la coopération économique régionale. Reste à savoir, et c'est toute la question, et nous allons parler ensemble durant les 20 prochaines minutes, si cet accord est le bon. Cet accord permettra-t-il de mettre fin à près de 30 ans d'insécurité dans l'est de la RDC? Quels sont, selon vous, les atouts, les faiblesses de cet accord qualifié d'historique? 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns pour alimenter la réflexion, mais d'abord, évidemment, priorité au standard, priorité à ceux qui prennent la parole sur RFI. Bonjour Gratien.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Dans quel état d'esprit êtes-vous après avoir lu et découvert, comme tous les Congolais, l'accord conclu vendredi dernier à Washington?
L'état d'esprit est certainement calme parce que cet accord semble être un accord imposé ou négocié sans la participation de la majorité de Congolais. Et naturellement, il n'est pas parfait. On n'attendait pas non plus un accord parfait. Mm-hmm. Mais il est très, très déséquilibré au point qu'il y a plus de pessimisme quant à son aboutissement lors de la mise en pratique.
Quand vous dites que l'accord est déséquilibré, à quoi pensez-vous exactement, Gratien?
Il y a énormément d'obligations que la RDC doit respecter, et le Rwanda, on a l'impression qu'il ne profite ou il ne vient qu'en réaction, alors que c'est l'acteur majeur de cette crise depuis 30 ans, avec ces millions de morts sur lesquels on n'a quasiment pas dit un seul mot. Mmh. Et puis les termes clés de cet accord sont vagues, notamment les FDLR, leur localisation, leur effectif. Et deuxièmement, les dispositifs défensifs sur lesquels le Rwanda s'appuie. Tout ça n'est pas bien défini, mmh, au point qu'on a l'impression que de 99 après le premier accord RDC-Rwanda jusqu'à aujourd'hui, on tourne en rond et cet accord, sauf s'il nous prouve le contraire, ne va pas échapper à la règle où les acteurs prennent le large sans que la paix ne revienne.
Vous êtes donc très sceptique, Gratien, hein, moins d'une semaine après la signature de cet accord. Quand vous dites que vous avez l'impression, Gratien, qu'on demande beaucoup plus à la RDC qu'au Rwanda, ce qui est essentiellement demandé à la RDC, à votre pays, c'est de neutraliser les FDLR.
Justement, de neutraliser les FDLR, vous venez de tout l'ancien président Joseph Kabila, M. Vital Kamerhe a dû démissionner du perchoir de l'Assemblée nationale parce que le Rwanda est entré avec l'accord de l'exécutif en RDC pour neutraliser les FDLR. Ils ont un bilan de cette action, ils ont des cartes blanches, pourtant ils n'ont pas réussi. Donc ce qui sort de la majorité des Congolais, c'est que cette histoire est un alibi. Il peut certes avoir un ou deux éléments qui en veulent au régime du Rwanda ou à la sécurité du Rwanda, mais...
Juste quand vous dites alibi, c'est-à-dire que vous avez l'impression, enfin vous êtes même, c'est plus qu'une impression, hein, vous êtes affirmatif lorsque vous dites que le Rwanda se sert nécessaire donc de la présence des FDLR dans l'est de la RDC pour justifier sa présence. Je rappelle quand même que les FDLR, groupe génocidaire qui, après le génocide de 94, a fui le Rwanda, a, on va dire, trouvé refuge dans l'est de la République démocratique du Congo, et depuis maintenant une trentaine d'années, le Rwanda affirme que les FDLR représentent une menace pour la sécurité du Rwanda. On va donner la parole à d'autres auditeurs, Gratien. En tout cas, merci de nous avoir contactés. Bonne journée à Kinshasa. Bonjour Charles.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
À Lubumbashi, est-ce que vous partagez le scepticisme exprimé à l'instant par Gratien ?
Oui, comme l'ensemble de tous les Congolais, hein. Depuis que nous avons vu cet accord être signé, bon, et quand on a essayé de parcourir l'accord, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, les termes de référence n'ont pas été bien négociés. Premièrement, quand on parle des FDLR, vous avez suivi ce que le ministre rwandais des Affaires étrangères a dit. Il dit que les FDLR font partie des FRDC. Vous vous rendez compte, c'est une aberration. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va traquer maintenant les FRDC.
Non, ce n'est pas dit comme ça, c'est vous qui l'interprétez, Charles. Ce que dit le Rwanda, c'est que l'armée, les FRDC, donc l'armée congolaise, s'appuie sur les FDLR pour combattre l'armée rwandaise présente sur le territoire congolais. Et donc ça, qu'est-ce qui suscite l'inquiétude chez vous, Charles ?
Oui, mais comment est-ce qu'on va localiser les FDLR si on dit que les FRDC s'appuient sur les FDLR pour combattre le Rwanda, le Rwanda. Vous voyez que nous sommes comme dans un cercle vicieux, voyez-vous. Donc ça, c'est le premier point qui fâche. Le deuxième point, c'est pratiquement par rapport on parle de désengagement. Bon, le Rwanda donne ses conditions et dit que pour lever ses mesures défensives, il faut que d'abord la première condition soit satisfaite.
Cette première condition, c'est la neutralisation justement des FDLR.
Oui, on met le Congo dans une sorte de cercle vicieux, comme je l'ai dit. Et puis un autre point, on revient sur l'intégration des forces, les forces rebelles actuellement, qui doivent intégrer l'armée congolaise. Mais ça, nous l'avons refusé. Nous avons refusé les brassages, les mixages. Nous avons dit que plus jamais notre armée sera mixée. Mais aujourd'hui, on nous impose encore cette même condition.
Alors, il est écrit noir sur blanc, hein, j'ai l'accord sous les yeux, alors il fait plusieurs pages évidemment, mais concernant l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité, toute réintégration dans les forces armées et la police nationale congolaise s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle au cas par cas sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire.
Il s'agit d'une intégration, on le veut ou pas, parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'hommes armés à l'Est là-bas ? Vous vous rendez compte ? Donc c'est pour dire que ce sont des sujets sur lesquels vraiment, pour nous, ce sont des sujets qui fâchent dans cet accord. Mmh. C'est vrai qu'on n'est pas totalement pessimiste, mais quand on regarde ces termes-là, on se dit, mais finalement, le Congo, il part perdant. Voyez-vous, un peu comme ce que mon prédécesseur disait. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais deviennent de plus en plus pessimistes par rapport à cet accord.
Ouais, vous attendiez donc à davantage pour le contenu de cet accord. Je vous interromps, Charles, il y a beaucoup de monde au standard et on est quasiment à la moitié de l'émission et il n'y a que deux auditeurs qui ont pu s'exprimer. Et en même temps, je le comprends, c'est un sujet évidemment qui vous tient à cœur. Il en va du retour de la sécurité dans l'est de la RDC et vous avez tous envie de commenter cet accord qui a été décrit comme historique. Mais pour qu'il soit historique, encore faut-il qu'il soit respecté. Gédéon, bonjour.
Bonjour, cher Juan.
Comme Charles à l'instant, vous aussi, vous êtes à Lubumbashi. Qu'avez-vous pensé ? Que pensez-vous de cet accord ?
En tout cas, de mon côté, je pense que cet accord, c'est un accord mi-ange, mi-démon. Hein. L'aspect angélique, c'est qu'il est arrivé à faire réunir les Rwandais et la RDC ensemble. C'était un élément très important. Et que les deux parties s'engagent à résoudre les conflits de manière pacifique. Mais les aspects négatifs de cet accord, c'est qu'on voudrait créer la paix, mais on néglige les autres. Les M23, AFC et les autres n'ont pas été appelés à cet accord-là. Et ça prouve que les résultats ne seront pas efficaces parce qu'on a négligé les autres. Parce que les Rwandais utilisent les M23, et les autres pour créer les désordres à l'Est là-bas. Alors aujourd'hui, la RDC et les Rwandais se réunissent aux États-Unis. En laissant les M23, en laissant l'AFC...
Mais en même temps, ça ne vous a pas échappé, Gédéon, qu'il y a d'autres discussions qui sont menées en parallèle. Il y a celles qui ont eu lieu donc à Washington et celles qui sont toujours en cours à Doha, au Qatar. Et celles de Doha au Qatar, elles portent justement sur le M23.
Tout à fait, je ne me conviens pas, c'est correct ce que vous dites là. Mais il aurait fallu que tout le monde soit autour d'une même table. Et la RDC, et les Rwandais, et les autres supplétifs rwandais ou congolais, on doit être autour d'une table pour que nous puissions trouver une paix durable. Mais cet accord, c'est vrai, c'est un bon départ, mais je me dis, parce que les autres n'ont pas été invités, ils seront les premiers à mettre le bâton sur les roues pour que ça ne marche pas.
Bon, en tout cas,
et aussi, mon inquiétude, pourquoi seulement les États-Unis, amener les Congolais, les Rwandais aux États-Unis? Moi, je me dis, non, c'est pas possible quand même. On pouvait trouver une solution à l'africaine ici, pourquoi amener ça?
Il Gédéon, déjà des accords signés sur le continent africain. Pour quel résultat?
En fait, moi, je me dis, les États-Unis regardent les Rwandais comme Israël aujourd'hui. C'est un grand soutien pour les Rwandais. Si on doit aller devant les Américains, je pense que cet accord, si on le scrute bien, ça sera pour l'avantage des Rwandais que pour les Congolais.
Ouais, c'est comme ça, en tout cas, que vous l'interprétez et que vous le lisez. Gédéon, je vous interromps. Merci infiniment. Bonne journée à Lubumbashi. Je repasserai vite au standard. Léonard souhaite prendre la parole. Bonjour.
Bonjour, Rwen. Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Alors, cet accord est une bonne chose, disiez-vous au standard, il y a quelques instants.
Tout à fait, parce que il faut retenir qu'il n'y a pas que de points faibles dans cet accord, il y a aussi des points forts. C'est notamment ça crée un ancrage économique régional, c'est que le président de la République, dans l'entame de son mandat, avait souhaité en mettant en place des accords avec le Rwanda pour que le Rwanda puisse bénéficier officiellement de nos ressources, ce qui n'a pas marché parce que le Rwanda voudrait continuer avec son pillage systématique et l'instabilité qu'il entretient à l'est de notre pays. Mais au-delà de cet ancrage économique, il y a aussi la facilitation de retour des réfugiés et des déplacés internes, ce qui est une bonne chose.
Ouais, mais le fait qu'il n'y ait aucune compensation concernant justement les réfugiés, les victimes de ces trois décennies d'insécurité, de conflits, est-ce que ça vous a choqué?
Oui, ça m'échappe, c'est parmi les points faibles que je voudrais relever. C'est notamment ce manque de justice qui transparaît clairement de ces accords, parce qu'on doit indemniser les victimes de la guerre à l'est du pays, mais on doit aussi créer des conditions pour qu'il y ait une paix et réconciliation, parce qu'il faut dire que le conflit à l'est du pays, de notre pays, est également de nature ethnique, instrumentalisée par le Rwanda toujours, pour permettre à une ethnie de se considérer comme étant stigmatisée. En parlant de l'ethnie, je parle bien sûr de Banyamulenge qui sont appuyés par le Rwanda.
Donc il aurait fallu mettre en place, à travers cet accord, des mécanismes pour qu'il y ait justice.
Tout à fait d'accord. Mais je me dis, c'est un bon début, mais peut-être qu'il y aura au niveau de l'appareil judiciaire international des mécanismes qui vont permettre à ce que ceux qui ont été auteurs de crimes graves à l'est du pays soient rattrapés par l'histoire, parce que nous aurons toujours rendez-vous avec l'histoire. Et dans cet accord, une autre faiblesse que j'ai notée, c'est le manque de retrait immédiat de M23. Ce matin,
Le M23 n'est pas mentionné dans cet accord. On parle des FDLR comme groupe armé. Le M23 figure dans d'autres négociations qui se déroulent à Doha, au Qatar.
Oui, mais je voudrais le dire, parce que le processus de Doha est en train de quasiment battre de l'aile. Je ne suis pas pessimiste, mais je me dis que ça va traîner les choses en longueur, donner toujours lieu à des violations de droits de l'homme. Ce matin, à Routchou, il y a eu encore de graves affrontements. Alors, sur terrain, il n'y a pas de... de changement, alors que il y a obligation d'un désengagement progressif et de cessation des hostilités.
Mais pour le mais concernant le M23, rien n'est encore écrit noir sur blanc sur les documents, Léonard. Je vous interromps, il nous reste 6 minutes, il y a vraiment beaucoup de monde ce matin au standard d'appel sur l'actualité. Papicho, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Liège, en Belgique.
Tout à fait.
J'aime la petite fiche qui m'arrive du standard, vous dites ça va être trop compliqué à appliquer cet accord. Expliquez-nous.
Oui, moi je suis un peu dubitatif quant à la pleine application de cet accord, mais j'avoue que c'est un pas timide vers le règlement pacifique du conflit. Et je tiens à remercier la brillante ministre des Affaires étrangères pour son hardiesse, son intrépidité à parvenir à ces protocoles d'attente de paix. Je disais que j'étais un peu dubitatif, Juan, parce que cette crise congolaise est perçue sous deux angles principaux. Et ces deux angles doivent être pleinement poursuivis, disons, le piste de solution doivent être pleinement poursuivis pour parvenir à une solution. Parce que le président Tshisekedi doit agir pour montrer à l'opinion qu'il a agi réellement dans l'idée de parvenir à la paix, et non pour la conservation de son pouvoir. Et quand je parle de ces deux angles, il y a un aspect interne à la crise. C'est-à-dire, la crise n'est pas qu'au niveau de la sous-région entre États, disons, inter-étatiques.
Oui. Papicho, je vous écoute attentivement, hein. Vos propos sont intéressants, mais je vous demanderai d'aller droit au but.
Voilà. Donc, il y a, disons, la résolution de la crise au niveau interne que la partie congolaise doit absolument privilégier. Et par là, je vois, le dialogue entre Congolais, le dialogue entre les forces.
Enfin, là, excusez-moi, Papicho, il s'agit d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous voyez, s'il y a des crises internes au sein de la RDC, c'est à régler entre les Congolais. Là, on parle de l'insécurité à l'Est.
Mais Juan, le succès de l'application de cet accord est lié, est indéniablement lié à ce que la résolution de la crise soit aussi faite au niveau interne.
D'accord, mais enfin ça, c'était pas l'objet des négociations menées à Washington ces dernières semaines. Willy nous rejoint, il nous reste 2 minutes. Je suis désolé de brusquer un peu Papicho, mais on tournait un peu en rond. Bonjour Willy.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
Bienvenue, vous vous félicitez de cet accord.
Merci beaucoup. Je suis en train de saluer le fait qu'il y a eu la volonté de tous les deux pays, à savoir la RDC et le Rwanda, de signer un accord en vue de privilégier la paix. Mais il y a une chose que moi j'ai trouvé un peu moins cohérent dans la signature de cet accord, c'est le fait qu'ils disent que les désengagements de forces doivent se passer conformément au CONOPS, qui est un concept des opérations militaires, mais ce CONOPS a été signé ou élaboré le 31 octobre 2024. Or, il a été élaboré initialement axé pour les FDLR, alors qu'à l'époque, Goma et Bukavu n'étaient pas occupés par l'armée rwandaise, et puis la présence rwandaise n'était pas aussi encore confirmée par notamment les autorités de la RDC, l'ONU et les États-Unis.
Donc vous êtes en train de nous dire, Willy, que le document qui fait référence justement à ce mécanisme conjoint, finalement, il est caduque, puisque ce qui était vrai en 2024 ne l'est plus aujourd'hui en 2025 au regard de l'évolution de l'insécurité ces derniers mois.
Exactement, parce que les choses ont évolué. À l'époque, l'armée rwandaise n'était pas confirmée en République démocratique du Congo. On parlait justement de la neutralisation des FDLR. Or, dans ces discussions qui ont eu lieu à Washington, on devrait prendre en compte le fait qu'il y a eu aujourd'hui la présence armée rwandaise en RDC confirmée partout et qu'on devrait...
Mais c'est bien pour ça que l'accord demande le retrait des forces rwandaises. Bon, On pourrait parler des heures et des heures, mais on arrive à la fin de cette émission. Caroline Paré est déjà là. Elle souhaite évidemment faire son émission. Hein. Bonjour Caroline.
Bonjour.
C'est la moindre
pas,
des choses. Oui. Hein. Les auditeurs seraient prêts à garder l'antenne jusqu'à la fin de la matinée. Dans 10 minutes, priorité santé. Vous nous parlez des douleurs, quand les douleurs deviennent chroniques.
Oui, hein, c'est une plainte fréquente, même la plus fréquente en consultation chez le médecin, quand ces symptômes douloureux s'installent. Au-delà de la prise en charge initiale, ça résiste à certains traitements, aux médicaments, au repos, à la rééducation. D'où des questions à poser, d'autres pistes à explorer. Alors, quelle approche pour soulager ces douleurs chroniques, vos témoignages, vos questions? On se retrouve bien sûr pour tout ça dans 10 minutes.
Juste après le journal.